Bienvenue dans l'émission Les Voix Paysannes, les nouveaux visages de l'agriculture de l'ADR 82, qui aujourd'hui vous amène à la rencontre des paysans et des paysannes du monde de demain. Le monde agricole est depuis quelques décennies en pleine reconfiguration, tant au niveau de ses pratiques qui s'orientent de plus en plus vers de l'agroécologie, qu'au niveau du profil des agriculteurs et des agricultrices. Le Tarn-et-Garonne est l'un des trois départements d'Occitanie qui compte le moins d'installations agricoles, 116 seulement en 2019. Pourtant, l'enjeu du renouvellement des générations agricoles est toujours plus important. Les actifs agricoles du département sont plus âgés qu'ailleurs. 41% des chefs d'exploitation ont plus de 55 ans. Alors qui va produire l'alimentation pour les citoyens? Cette situation critique se reflète dans un indicateur, le taux de remplacement des chefs d'exploitation, où nous avons seulement 42 installations pour 100 départs en retraite. Néanmoins, des porteurs et des porteuses de projets se lancent dans cette aventure pour repartir à la conquête de nos campagnes et redynamiser le territoire rural. Mais qui sont-ils? Les profils des porteurs et des porteuses de projets sont tout aussi variés et multiples que les productions et les systèmes qu'ils nous proposent. Ainsi, nous allons écouter les témoignages de 6 porteurs et porteuses de projets du territoire récemment installés sur le Tarn-et-Garonne. Nous donnons maintenant la parole à Suzanne et à Nicolas, plus ou moins issus directement d'une famille d'agriculteurs. Depuis une ou deux générations, ou bien ayant sauté une génération, ils ont décidé de se lancer dans cette aventure en créant leur activité propre.
Je m'appelle Suzanne Ferté, je suis installée officiellement depuis août 2022 en brebis laitière avec le projet de faire du fromage. Donc c'est des terres qu'on a rachetées et sur lesquelles il n'y avait pas d'élevage jusqu'à présent, c'était juste fauché et puis il y a des bâtiments. Donc depuis novembre, on a 70 agnelles qui grandissent et qui, on l'espère, vont mettre bas en décembre pour faire du lait. Je dis « on » parce que c'est un projet avec mon compagnon Lucas. C'est moi qui m'installe officiellement et lui continue de travailler, mais on est à deux sur le projet, on a investi à deux et les décisions, c'est des décisions communes. J'ai fait des études d'agronomie et quand j'ai fini mes études, en fait je suis la cinquième d'une famille de 6 enfants et mon frère avait déjà repris la ferme de mes parents et j'ai essayé de chercher un métier qui pourrait m'épanouir. J'ai été enseignante, j'ai fait un doctorat sur la photosynthèse. Mais je suis arrivée à la conclusion qu'il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, mais ce qui me plaisait le plus et me faisait le plus de sens pour moi, c'était l'agriculture. Et donc c'est à ce moment-là que je suis rentrée dans mon village natal à Saint-Antonin. Et pour moi, ce qui fait sens dans ce métier, c'est d'être en lien avec le sol, les animaux. C'est aussi pour moi, je crois que c'est aussi là où je me sens le plus utile en fait, parce que être agriculteur ou paysan, c'est aussi contribuer à maintenir des savoir-faire, des savoir-vivre, une manière de vivre. C'est à la fois utiliser son corps parce que c'est un travail très physique et en même temps c'est beaucoup de réflexion, il faut penser le système, savoir qu'est-ce qu'on va semer et puis dans 2 ans comment on va faire.
Nicolas, je suis éleveur de brebis allaitantes depuis le 1er mai 2020. Donc je produis des agneaux que je vends en direct auprès des particuliers et dans 2 épiceries sur cette fond et Bruniquel. Je fais également des produits en conserve, de navarin d'agneau et de pâté d'agneau, pour valoriser un petit peu différemment la production et pouvoir offrir des produits qui se conservent et qui se transportent facilement, vu qu'on est dans une région qui est quand même touristique. J'ai un gîte qui est ouvert depuis le 1er janvier également, où on accueille les touristes, ceux sur lesquels je suis labellisé « Bienvenue à la ferme ». Donc on accueille des gens qui ne connaissent pas forcément bien le milieu agricole. Ça leur permet un petit peu de découvrir ce qu'on fait, comment les animaux sont élevés et comment leur alimentation est produite. On va dire issue du milieu agricole, même si ça date et que ça a sauté des générations. J'ai un diplôme agricole que j'ai passé en lycée agricole dans le Gers. Je me suis engagé pendant 18 ans en gendarmerie. Et puis voilà, comme beaucoup de gens, je dirais c'est la crise de la quarantaine, j'ai décidé de me reconvertir. J'ai toujours aimé les brebis. Parce que voilà, c'est des animaux qui sont attachants, qui sont sympas, qui sont entre guillemets faciles à manipuler. Et c'est une production qui se prête bien à notre climat, à la géographie, à la qualité des prairies qu'on a. Les prairies de Causse se valorisent nettement mieux par les brebis. Et puis une envie de vivre à un autre rythme et au plus près de la nature aussi. Plus profiter des enfants, plus profiter en fait, tout simplement. Alors la finalité du projet, c'est d'avoir plusieurs ateliers sur la ferme. Pour l'instant, bon, l'atelier brebis allaitante est viable et fonctionne. Je fais également de l'éco-pâturage au profit des collectivités et des entreprises avec mes brebis. Donc ça c'est lancé, ça fonctionne depuis 2 ans maintenant. Cette année, je vais installer sur l'exploitation un atelier port plein air. Les premiers ports devraient arriver à la fin de l'année si tout va bien. Pour le moment, il y a encore beaucoup de parcelles à nettoyer, à clôturer, pour respecter toutes les normes de biosécurité liées à cette activité. Sur l'exploitation, à partir de l'année prochaine, il y aura également un petit verger, et sous lequel il y aura des poules pondeuses. Là, ce sera plus pour l'horizon 2024. Alors, l'éco-pâturage, en fait, c'est de l'entretien d'espaces verts, on va dire, pour banaliser. Mais au lieu de passer la tondeuse, on passe une brebis. Donc, ça permet à des entreprises, à des collectivités, et même à des particuliers, d'avoir un entretien quelque part plus vert, qui consomme moins d'énergie fossile. Et puis d'avoir aussi la compagnie des bêtes.
Vous venez d'entendre les témoignages de Suzanne et de Nicolas. Sans plus attendre, nous donnons la parole à Benjamin, Fanny, Julie et Clément, des porteurs et des porteuses de projets non issus du milieu agricole, pour qui l'appel d'une nouvelle aventure s'est fait sentir.
Je m'appelle Fanny et je suis installée en tant que paysanne boulangère depuis septembre 2020. Je suis installée en tant que cotisante solidaire, et donc en train de faire une installation progressive, comme on dit, avec peu de terre, relativement peu de production au début, mais qui augmente de manière un peu constante quand même. Voilà. Maximal pour l'installation progressive, mais moi je me donne 5 ans, parce que je trouve que c'est des bonnes périodes de vie en fait. J'ai pas envie de galérer plus de 5 ans, quoi. Et au bout de 5 ans, j'ai l'impression que je saurai à peu près si la chose peut être menée à bien ou pas. J'ai commencé parce que j'ai eu une opportunité d'un fermage de 6 hectares de terres cultivables. Et donc, c'était la seule et première opportunité réelle que j'ai eue. Donc, je l'ai saisie à ce moment-là et je me suis dit, bon, mais tant pis, je ne peux pas m'installer. Enfin, je sais que ce n'est pas viable comme installation en tant que paysanne boulangère si on respecte les rotations, etc. Ça me fera beaucoup trop peu de surface et beaucoup trop peu de blé pour en vivre, mais je fais le pari de commencer comme ça, quoi, et d'en acquérir d'autres au fur et à mesure. Donc là, je suis à la 3e année, donc encore 2 ans. Pour passer chef d'exploitation avec assez de surface qui me semble être viable pour me tirer un salaire qui me convient. Voilà. Et je chercherai à doubler la surface au minimum. Je pense que le minimum pour moi ce serait 15-16 hectares et pour être à l'aise, je pense que ce serait bien d'avoir une vingtaine d'hectares cultivables. Pour avoir une production de 4 à 5 hectares de céréales par an. Pour pouvoir faire, si on va un peu plus loin, pour pouvoir faire un peu entre 150 et 200 kg de pain par semaine. Enfin, 200 kg, c'est déjà pas mal, quoi. Disons 170-180 kg par semaine. avec des rendements assez faibles parce qu'en bio et avec des variétés un peu anciennes.
Bah, moi, je m'appelle Benjamin, j'ai 28 ans, je m'installe en maraîchage du coup diversifié en biologique à Saint-Antonin. Et là, je suis en cours d'installation pour l'instant. C'est pas spécifique à 8 ou 10 légumes, c'est que je vais en faire une vingtaine, 20-25 sur toute l'année. Et après, dans chaque légume, plusieurs variétés, quoi. J'ai un diplôme en maraîchage, du coup j'ai fait le BPREA à Brins, à côté de Gaillac, il y a 2 ans et demi, peut-être presque 3 je crois. Et en fait j'y suis venu parce que j'avais fait beaucoup de woofing dans des fermes avant ça, et ça m'a, pas forcément sur du maraîchage, mais sur plein d'autres choses, des constructions, de l'éducation à l'environnement, pas mal de pépinières. Et du coup, ça m'a donné envie après de m'installer en fait à mon propre compte. J'en avais un peu marre de... enfin, j'ai bossé après chez des personnes en salarié aussi. Là, pour le coup, en maraîchage, en arboriculture aussi. Et après, je me suis dit, bon, en fait, j'ai bien envie de bosser pour moi et de mettre toute cette énergie dans les champs pour mon propre projet, quoi. Moi, là-bas, je suis animateur social. Et j'animais des jardins potagers avec des enfants et des adultes. Pourquoi le maraîchage ? En fait, j'ai bifurqué un petit peu pour voir d'autres choses, que j'avais envie de m'ouvrir à l'éco-construction, etc. Mais en fait, ce qui me plaisait, c'était vraiment ce retour au potager. Bon, là, le maraîchage, c'est un gros potager, mais c'était vraiment cet aspect, cultiver plein de choses différentes, que ça soit très diversifié aussi dans le travail au quotidien, qui me plaisait. Et c'est les expériences qui m'ont le plus plu. Voilà, je pense que je sais pas, c'est comme ça.
Bonjour, moi c'est Julie.
Et moi c'est Clément. Et donc on s'est installé dans le Tarn-et-Garonne depuis 1 an et demi en chèvre laitière avec transformation fromagère. Et donc on est tout à l'est du département et on transforme notamment une partie en rocamadour. On est sur une ferme caprine petite, avec 45 chèvres en pâturage, donc qui sortent, et voilà. Nos cédants avaient déjà ce modèle-là, donc ils ont créé toute pièce la chèvrerie, et donc voilà, on a repris sur le même cheptel, et donc nous, on apporte plutôt des modifications au niveau des chevreaux qu'on engraisse directement à la ferme, et on modifie un peu sur la partie pâturage où on va essayer de valoriser un peu plus le pâturage et donc du coup de mettre en place du pâturage tournant dynamique plutôt qu'un pâturage libre. Donc ça permet que les chèvres qui sont plutôt casanières, donc qui vont toujours un peu au même endroit pour pâturer, on les dirige vers des parcelles pour qu'elles qu'elle les valorise mieux et que du coup elle se retrouve à manger plus dehors que d'aliments qu'on va devoir leur apporter. Et donc du coup, en plus de l'exploitation caprine qui était déjà existante, on va lancer une partie maraîchage qui du coup elle n'existait pas. Et donc l'idée, c'est une idée d'exploitation sur un principe de polyculture élevage. Et donc du coup, ça va être d'utiliser le fumier des chèvres pour faire du maraîchage à côté et utiliser les résidus de maraîchage derrière, donc soit pour nourrir du coup des cochons, etc. Voilà. Et donc avoir vraiment un système circulaire où les déchets d'un atelier vont servir à un autre atelier. Et donc la partie maraîchage va être sur sol vivant, c'est-à-dire sur non-labour du sol, et où l'idée, ça va être de plutôt nourrir le sol pour que le sol produise par lui-même les nutriments nécessaires aux plantes plutôt que d'apporter directement au sol les nutriments qui servent à nourrir les plantes.
On avait plus un projet de vie un peu flou avec Clément sur un retour à la ruralité et l'autonomie dans tous les sens du terme. Et on avait chacun un métier. Moi, j'étais conseillère installation dans une chambre d'agriculture et Clément était technicien de rivière. Et ça arrivait à un moment de notre vie où on en avait un peu marre de nos métiers respectifs. Et où du coup, moi, le fait d'accompagner des porteurs de projets sur tous les aspects de création de leur projet, je pense que ça a levé beaucoup de freins que je me mettais en termes de légitimité, etc. Et de est-ce que je serais capable d'être éleveuse en termes de temps de travail, d'astreinte et tout ça. Et du coup, il y a eu un petit déclic où je me suis dit pourquoi pas. Et Clément m'a suivi, et lui avec plutôt une idée de maraîchage. Et voilà, et du coup, on a, pas dans le même temps, mais on a quitté nos travails chacun notre tour. Et on était partis pour se former et chercher du foncier, en se disant on se laisse 2 ans et puis on verra bien ce qui arrivera.
C'était Benjamin, Fanny, Julie et Clément qui nous partageaient leur parcours. Tout de suite, une coupure musicale et l'on se retrouve juste après pour parler du parcours à l'installation. Entre démarche et recherche de foncier, quelles sont les difficultés à surmonter et quelles sont les solutions trouvées par ces porteurs de projets ? De retour dans l'émission Les Voix Paysannes de l'ADR 82. Pour cette deuxième partie d'émission, nous allons écouter des regards croisés sur les démarches à l'installation et la recherche de foncier. Dans le schéma classique de la transmission familiale, les démarches à l'installation sont plus progressives, de même que le transfert des savoir-faire et le transfert du patrimoine. Ainsi, les nouveaux porteurs et porteuses de projets qui s'installent en tant qu'encadre familial peuvent bénéficier d'aides à l'installation, comme le pass à l'installation ou la dotation jeune agriculteur, qui sont soumises à certaines conditions, telles que l'âge et le revenu à dégager de l'activité. Certains décident donc de s'installer pleinement en tant que chef d'exploitation, comme Suzanne, Benjamin, Julie et Clément, dès la première année. D'autres choisissent de s'installer progressivement afin de sécuriser leurs revenus, leurs expériences et étaler leurs investissements, comme Fanny et Nicolas. Nous écoutons leur retour sur ces premiers mois ou ces premières années de concrétisation de leur projet.
Déjà avec le BPROA, on avait beaucoup vu tout l'aspect budgétaire. C'est quand même un gros aspect en fait de l'installation, le prévisionnel d'activité. Et j'avais refait encore des formations avec l'ADAR pour refaire encore mon prévisionnel. Je l'ai refait 3 ou 4 fois d'affilée, mon prévisionnel. Mais bon, c'est pas plus mal parce qu'à chaque fois, compte de résultats, machin truc, on oublie un peu ce que c'est. Et donc voilà, après j'ai été suivi avec la chambre et l'ADR du coup pour l'installation et pour les demandes d'aide. Après au niveau administratif, j'ai fait des rendez-vous à la banque aussi en plus pour demander des prêts. Avec tous les investissements qu'il y a à faire, ouais, j'ai fait un emprunt quand même à la banque en plus. Et je voulais m'installer à la base sans aide. Pour être au maximum indépendant, mais j'ai fait des compromis dessus parce que s'installer en agricole sans aide, c'est quand même un peu compliqué. Enfin, en tout cas, là, j'achète directement des grosses serres et j'en rachèterai plus. Du coup, j'ai plutôt privilégié ça et je m'installe directement avec la DGA, du coup, qui est une grosse subvention pour les jeunes agriculteurs. Mais du coup, il faut être exploitant à titre principal au terme des 4 ans et se dégager un SMIC. Mais du coup, plutôt que le pass installation, où il est vraiment très progressif, et qui est une somme un petit peu moindre aussi. Voilà. Je privilégie ça, parce que j'ai déjà quand même un peu d'expérience, et je sais un petit peu où je veux aller, donc voilà, c'est plus rapide pour moi aussi. Et vis-à-vis des banques aussi, c'est plus intéressant, entre guillemets, parce qu'ils t'accordent plus facilement un prêt, si on est suivi avec la chambre d'agriculture, qui nous accorde une TGA, quoi.
Il y a beaucoup d'étapes intermédiaires et franchement, courage à ceux qui se lancent.
Et tu as dit un parcours long et difficile. Pourquoi ?
En fait, c'est un parcours dans lequel il y a pas mal d'étapes intermédiaires. Donc, c'est créer son statut. Déclarer son troupeau, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a faire la demande. Moi, j'ai fait une demande de DJA, il y a des demandes de subvention. Si on veut faire un bâtiment, il faut demander un permis de construire. Et il y a vraiment plein de choses à faire et il n'y a pas vraiment de. C'est à nous de savoir qu'il faut faire tout ça. Et donc, il faut vraiment être proactif dans les démarches administratives et être alerte. Et je suis assez contente parce que de par mon parcours, j'étais assez à l'aise avec l'administratif. Mais c'est vrai que c'est complexe, quoi. On est un peu accompagné, mais ça reste complexe, surtout quand c'est une création d'activité.
Et donc, pendant 2 ans, tu parles beaucoup d'administratif. Est-ce qu'il y a quand même des moments à la ferme, dans un parcours installation ?
Non, alors pendant ces 2 ans-là, je n'ai pas fait que de l'administratif. En fait, j'en ai profité pour avancer sur la restauration de notre petite maison, pour me former. J'ai pris des ruches en me disant que ça pouvait être un projet potentiel. J'ai fait plein de choses, mais en fait, j'ai pas fait que de l'administratif, parce que, en fait, toutes ces démarches administratives n'ont pu se mettre en place qu'à partir du moment où on a trouvé du foncier et où on a pu commencer l'installation à proprement parler. En fait, pendant les 2 ans, il y a eu beaucoup de brassage, quoi, des phases de maturation, de projet.
Donc les démarches pour créer l'exploitation ont été très difficiles et compliquées du fait du Covid, printemps 2020, confinement. Le début du télétravail pour les administrations, donc très difficile d'avoir quelqu'un au téléphone, d'avoir des gens. Le seul avantage, c'est que la création de l'exploitation en entreprise individuelle, c'est des démarches qui sont très faciles à faire puisqu'elles se font en ligne. Donc il y a moins de dossiers à remplir, il y a moins de choses à faire, de démarches bancaires, etc. Donc ça a permis de quand même créer l'exploitation sans trop de difficultés. À me former dans les différents domaines qui m'intéressaient qu'au bout d'un an, en gros au printemps 2021. puisque voilà, à cause du Covid, on ne pouvait rien faire de plus. Donc c'est vrai que voilà, les démarches administratives pour s'installer sont longues, sont quand même lourdes. Donc c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Et puis même les démarches administratives ensuite, une fois que l'exploitation existe, on va dire, ça prend quand même énormément de temps. Donc voilà, c'est, moi c'est quelque chose que, autant voilà, pour créer l'exploitation, je savais que ça prendrait du temps, que ça allait être long, et je m'y attendais. Mais c'est vrai que le côté administratif de la gestion quotidienne, on va dire, de l'exploitation, ça me prend quasiment une journée par semaine. Et ça, c'est quelque chose que je ne pensais pas forcément. C'est difficile, enfin, il faut se battre en fait pour montrer que son projet il est viable, qu'on y croit, arriver à faire en sorte que le conseiller qu'on a en face il croit aussi au projet. Parce que c'est pas lui qui va décider de toute façon, c'est souvent son chef de service. Donc ça va être à lui de le convaincre. Il faut déjà arriver à convaincre le conseiller pour qu'il puisse ensuite convaincre son responsable d'agence. Donc c'est un peu compliqué. Et pour obtenir mon tout premier crédit, pour acheter un peu de matériel, j'ai démarché 12 banques. Avant d'avoir une banque qui veuille bien me prêter 25 000 euros. C'est aussi un parcours du combattant. C'est aussi beaucoup de dossiers à remplir, que ce soit pour les assurances, de prévisionnels à faire. Un coup, il y a une banque qui le veut sur 3 ans, une autre qui le veut sur 5. Donc voilà, c'est vrai que c'est aussi beaucoup... Chercher des financements, c'est un travail à part entière.
Nous, on aurait aimé que ça se passe peut-être plus doucement, parce qu'on s'est rendu compte qu'en arrivant à l'installation, on était encore un peu fragile dans nos connaissances et nos expériences au final. Et heureusement qu'on a été, pendant la première année, pas mal aidés sur le technique avec des conseillers, qu'on a eu beaucoup de soutien de la part de copains et de famille. Mais on va dire que nos cédants, pour eux, la passation devait se passer assez rapidement. Et du coup, on a collé le tempo sur ça. Ça a été assez compliqué de faire tout rentrer en termes administratifs dans 6 mois. Ça a été un long parcours avec beaucoup d'épreuves, mais on a réussi à tout faire rentrer là-dedans. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, je pense qu'on a... Ce qu'on n'a pas appris en ayant le temps avant, on l'a appris durant la première année.
Nous venons d'entendre les témoignages de nos 6 porteurs de projets en Tarn-et-Garonne sur leur parcours à l'installation. Place maintenant à leur retour d'expérience dans la recherche du foncier, condition sine qua non à toute mise en place d'activités agricoles.
Entre le moment où j'ai commencé à chercher du foncier pour m'installer et mon installation effective, il s'est écoulé 2 ans, 2 ans et demi. C'est ce que j'imaginais. Enfin, moi, j'avais fait des études d'agronomie et je baigne aussi dans le milieu, donc je sais que c'est long de s'installer. Le plus dur, ça a été de trouver du foncier, mais c'est encore une fois le temps. Trouver du foncier, pour moi, c'est dur parce que c'est en même temps on construit le projet. Et ce qui est long, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai envie de trouver, quelles sont mes contraintes, est-ce que c'est géographique, est-ce que c'est une certaine surface, est-ce que c'est un certain type de bâtiment. Donc pour moi, c'est trouver le foncier est long parce que c'est aussi long de construire son projet. Moi, pour trouver des terres, je suis passée... Ben, en fait, on l'a trouvé en allant directement voir les propriétaires, mais je sais que j'avais contacté la SAFER qui avait été assez aidante là-dessus. J'avais candidaté sur des terres sur lesquelles ils avaient décidé de ne pas m'installer parce que c'était trop précaire, c'était un CMD. Mais par contre, le président est revenu me voir en me proposant d'autres endroits qui pourraient convenir à mon projet. Voilà.
Oui, voilà, j'ai visité pas mal de terrains différents. Et du coup, les terrains sont plus ou moins accessibles avec de l'eau ou pas. Et en fait, celui de Saint-Antonin, je l'ai trouvé par des gens de la mairie, du coup, qui m'ont dit qu'il y avait un terrain qui était à vendre. Sauf que c'était un terrain agricole qui... Enfin, en gros, c'était une préemption par la SAFER. La SAFER allait préempter parce que ce terrain agricole allait partir pour un usage de loisirs. Sauf que c'était quand même 1,15 hectare. Et donc des gens de la mairie m'ont dit « Ah, mais on sait que tu as envie de t'installer, est-ce que tu n'as pas envie de postuler ?» Et du coup, j'ai postulé à la SAFER, il y a eu des commissions SAFER, j'ai dû défendre mon projet contre un autre agriculteur qui préemptait lui aussi contre le terrain. Donc ça a mis plein de temps en fait. Les délibérations, c'était en septembre dernier, je crois. Et c'était en juin que la préemption a été faite. Et là, j'ai toujours pas acheté le terrain, alors qu'on est en janvier, on est même pas en janvier, on est en mars. Parce que c'est encore chez le notaire, etc. Voilà. Du coup, c'était du bouche à oreille parce que j'étais allé rencontrer les mairies pour trouver ce terrain. J'avais rencontré toutes les mairies du coin pour leur dire que je voulais m'installer. J'avais envoyé des mails à tout le monde et m'étais déplacé en plus. Voilà, des sacrées démarches pour trouver des terrains quand même, à chaque fois. De la mairie, en tout cas, là j'ai quand même été soutenu pour le. La mairie est quand même contente de la démarche. Après, c'est parce que j'ai, entre guillemets, amené la démarche de dire que je voulais m'installer dans leur village. Mais ouais, c'est l'accueil dépend. Mais je trouve quand même qu'il y a une volonté de plus en plus, en tout cas dans les villages, d'installer des maraîchers, en tout cas d'être résilient au niveau alimentaire. En tout cas, dans le Lot, c'est quand même là où j'ai vu le plus de terrain. Là-bas, il y a quand même pas mal de mairies qui sont assez militantes, assez engagées, je trouve, au niveau écologie, et qui ont envie d'installer du coup des jeunes en agriculture, peu importe si c'est maraîchage ou quoi.
Alors, j'aurais besoin d'un petit peu plus de surface. Actuellement, je cherche éventuellement du foncier, de préférence en fermage plutôt qu'à l'achat, mais bon, tout est possible. Mais ici, c'est très très compliqué. Il y a très peu de choses à vendre. Le peu qu'il peut y avoir à vendre sont des fois à des prix défiant toute concurrence. Donc, pas à des prix qui sont accessibles pour des agriculteurs. Hein. Parce qu'on achète de la prairie, on n'achète pas du terrain constructible. Hein. Donc, c'est assez compliqué. On est dans une région où voilà, le foncier est rare. Et du coup, forcément, plus c'est rare, plus c'est difficile d'accès. Et puis voilà, on a affaire aussi à certaines personnes qui ne veulent pas se séparer de leurs terres. On ne sait pas trop pourquoi. Des terres qui ne sont pas exploitées depuis des années, qui sont laissées à l'abandon, mais dont les propriétaires ne veulent pas ni les vendre, ni les mettre en fermage, ni qu'elles soient exploitées, sans donner de raison particulière. Donc c'est vrai que ça complique un petit peu les choses.
Je voulais partir dans l'agriculture, mais que je voulais déjà très très bien penser mon système et que je voulais pouvoir prendre des pauses, je voulais l'agriculture collective, je voulais tous ces trucs-là un peu d'écosystème dans la ferme. Et je voulais voir plusieurs systèmes pour pouvoir bien définir ce que j'ai envie et ce que j'ai pas forcément envie. Et à côté de ça, on a commencé à chercher. Et ça nous est un peu tombé dessus. Au bout de 4 mois, on a trouvé une annonce qui nous a particulièrement plu. Et on a franchi le pas en envoyant une annonce, enfin une candidature comme ça, où on pensait pas du tout qu'on serait retenu ou quoi. On pensait qu'il y avait une infime partie, enfin une infime chance pour que ça marche. Et au final, ça a pris et on est parti dans cette grande aventure où ça a été notre quotidien pendant 6 mois de s'installer. Et du coup, on s'est installé il y a fin décembre 2021, alors qu'on avait visité la ferme en avril. Donc ça a été très très rapide. Et donc, gros changement de vie assez soudain.
Ma ferme idéale serait avoir une petite maison, pas trop grande. Pourquoi pas en propriété, pour avoir un peu de sécurité quand même, d'avoir un toit sur la tête. Et qui soit à proximité assez immédiate d'un bâtiment isolé, isolé de toute autre habitation, qui serait le fourni de la meunerie, voire attenant à un bâtiment de stockage pour le grain, quoi, de stockage et de tri. Donc avoir tout un peu à proximité, mais quand même séparé pour pouvoir... imaginer la fin d'activité et la reprise de l'activité boulangère, quoi, sans être obligé de partir de l'habitation. Donc moi j'ai l'impression que ça devrait être un peu la fin de ces fermes familiales où tout est rassemblé, quoi, sur un même lieu, l'habitation, le lieu d'activité, etc. Parce que c'est trop compliqué à transmettre après, quoi. Soit ça vaut ultra cher, si on décide de vraiment tout vendre, mais qui c'est qui peut acheter ça, quoi, en fait. Ça aurait pris une telle valeur, tout l'ensemble, que... Enfin, moi, je peux pas acheter ces jaunes de ferme, quoi. Et après, si on a passé sa vie à retaper la maison et que enfin, en toute fin d'activité, on est bien, on a chaud en hiver, on a fait tous les travaux nécessaires et tout ça, et que là, on arrête de travailler parce qu'on est cassé, ben, on n'a pas envie de partir de chez soi. Donc, si tu as fait un joli fournil, magnifique, dans lequel tu as pu bosser pendant 20 ans, c'était chouette parce que c'était devant la porte et super agréable, pourquoi pas, mais comment faire pour le transmettre, quoi? Et moi, c'est ça qui me rend... Enfin, je trouve ça trop dommage, quoi. Tous ces outils de travail qui sont pas vraiment utilisables par des gens qui cherchent à s'installer comme moi. Enfin, voilà. Moi, j'en ai visité plein des fournils où c'est super compliqué de les utiliser parce que c'est en plein milieu de la ferme, en fait, et que... Tu sais que tu déranges les personnes, en fait, dans leur vie familiale, que toi aussi, t'es pas trop à l'aise parce que c'est vraiment chez eux. C'est pas évident.
C'est la fin de l'émission Les Voix Paysannes, les nouveaux visages de l'agriculture du mois de mai. Merci à Suzanne, Nicolas, Fanny, Benjamin, Julie et Clément d'avoir partagé leurs expériences avec nous, les auditeurs de CFM. Pour l'heure, on se retrouve le 7 juin pour une nouvelle émission. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de CFM Caylus ou de l'ADR 82 et réécouter l'émission en rediffusion ce dimanche à 20h. Pour rappel, l'ADR 82, l'Association pour le développement de l'emploi agricole et rural, accompagne les porteurs de projets à l'installation, ainsi que les cédants à la transmission agricole. Elle participe aussi à la diffusion des savoir-faire paysans. Retrouvez toutes nos activités et nos dispositifs d'accompagnement et de formation sur notre site.